ce matin, mon ami François, d'abord que je salue, bonjour, vous allez bien?
Bonjour Clotilde, oui je vais bien, bon. Bonjour à toutes, bonjour à tous.
Je me disais, bon, vous connaissez l'actualité, vous savez ce qui est arrivé à Orlando, puis je me disais qu'on allait bien avoir besoin de vous ce matin, vous qui allez nous apprendre qu'il se passe quelque chose d'extraordinaire quelque part dans le monde, et du coup je me suis donné comme ligne ce matin d'essayer de trouver des choses extraordinaires moi aussi dans les journaux. Mais j'ai eu beaucoup de mal, mais j'ai quand même trouvé, je vous en parle juste 30 secondes parce que je ne veux pas vous prendre trop de votre temps, mais figurez-vous qu'à Sherbrooke, il y a un couple de femmes qui ont adopté 3 enfants lourdement handicapés. Et une semaine sur deux, elles en accueillent 5 autres lourdement handicapés pour donner du répit à leurs parents. Voyez-vous, puis ça, c'est chez nous que ça se passe. Puis je pensais à ce timbré là, qui a tué 50 homosexuels. Puis je me dis, bon, ben voilà, il aurait fait quoi, lui, vous, moi, pour ces personnes handicapées-là? Ben là, il y a ce couple de femmes qui fait ça. Puis j'ai trouvé ça tellement extraordinaire. Je me suis dit, tiens, avant de lui céder la parole, il faut que je lui raconte cette histoire-là.
Eh bien, vous faites bien, merci Clotilde. Effectivement, il se passe quelque chose d'extraordinaire dans le monde. Et en l'occurrence, c'était à Sherbrooke. Alors, de mon côté, effectivement, l'actualité a un petit peu secouer l'agenda que j'avais pour cette chronique, parce que ça me paraissait difficile, pour ne pas dire impossible, évidemment, de ne pas commenter ou même simplement rendre un hommage à toutes les personnes qui ont été touchées hier. Et dans cette chronique, je vous propose ce matin, pardonnez-moi, je vous propose ce matin 2 très belles histoires qui vont nous faire voyager à nouveau. Et puis, pour clôturer cette chronique, eh bien c'est en Allemagne que je vous propose de nous rendre, et c'est depuis l'Allemagne que j'évoquerai l'événement tragique d'hier. Alors, sans plus attendre, nous mettons le cap tout d'abord sur le Chili. Pourquoi le Chili? Eh bien le Chili n'arrête pas de nous surprendre. Il nous surprend, il nous étonne, et puis je pense qu'il va servir d'exemple à bien des égards. Alors, étayer notre sujet ce matin au Chili, j'utilise un article que j'ai recueilli sur ce site internet qui est Positive FR. C'est signé d'Axel Leclerc. C'est daté du 8 juin 2016, donc c'est relativement récent. Alors, que se passe-t-il au Chili de si étonnant? Eh bien, ces dernières années, le Chili a tellement investi sur les énergies renouvelables que l'électricité est devenue gratuite. Une situation ubuesque, inattendue, et qui ont sans doute ravi les habitants. Alors, comment ça se fait? Eh bien, en quelques mois, 29 fermes solaires ont ouvert leurs portes au nord du Chili. Et apparemment, eh bien, elles sont toutes très performantes. La production excède largement la demande locale. Le résultat? Un prix de vente qui s'écroule. Et voilà même 118 jours que l'électricité est carrément gratuite au nord du pays. Alors bien sûr, la majorité de la population chilienne, c'est-à-dire à peu près 40%, vit dans la grande agglomération de Santiago. Et elle n'est pas encore concernée par cette mesure qui touche principalement les localités et les installations du nord autour du désert d'Atacama. Mais pour l'instant, ce n'est pas une première. L'an passé, l'électricité était restée gratuite pendant 192 jours dans cette même région. Eh bien, c'est un record qui pourrait être battu cette année. Et la situation n'est pas prête de s'inverser. Alors que le Chili a déjà quadruplé ses capacités solaires en 3 ans, il y a maintenant 15 autres projets de centrales solaires qui vont bientôt voir le jour. Cela dit, la gratuité ne durera pas éternellement. Et à la limite, tant mieux. Car il ne faudrait pas que les centrales ferment, faute de revenus. En fait, si les centrales produisent plus que nécessaire, c'est surtout parce que le pays manque de lignes de transmission capables d'acheminer l'électricité dans tout le pays. Le ministre de l'Énergie du Chili, Máximo Pacheco, nous dit ceci. Le Chili dispose d'au moins 7 ou 8 points dans les lignes de transmission qui ne sont plus fiables ou qui sont bloqués. Et c'est un énorme défi qui nous attend pour dépasser ces contraintes. Lorsque vous embarquez sur le chemin d'une croissance et d'un développement comme celui que nous avons connue et que nous continuons de connaître, vous pouvez évidemment voir émerger des difficultés. Alors, c'est sans doute juste un petit retard à l'allumage, dirons-nous. Eh bien, le Chili ne se croyait sans doute pas capable de produire autant d'énergie solaire en si peu de temps. C'était oublié un peu vite que quand on veut, on peut. Décidément, après avoir annoncé qu'il serait le premier pays à faire rouler son métro grâce au vent et au soleil, le Chili, eh bien, n'en finit plus de nous surprendre par sa capacité à innover. Alors bravo!
Alors, un autre sujet.
Absolument. Nous quittons le Chili, nous prenons la direction de la France, le sud-ouest de la France et la charmante ville d'Albi. Alors, il se passe des choses étonnantes là-bas. Et Albi s'est proposé un défi. La ville d'Albi veut conquérir son autosuffisance alimentaire. Alors, rendons-nous là-bas, allons voir de près ce qu'il s'y passe. Et c'est grâce à un article recueilli dans le Figaro daté du 14 avril, signé Paul Carcenac, que je vous propose de faire ce rapide tour d'horizon. Un petit parfum de révolution verte flotte dans l'air à Albi. L'équipe municipale a effectivement officialisé début 2016 un défi ambitieux, parvenir à l'autosuffisance alimentaire à l'horizon 2020. Eh bien, c'est une première en France, surtout pour une ville de cette taille. Albi, c'est 50-51 000 habitants. Alors, de quoi s'agit-il ? Eh bien, la production agricole, dans un rayon de 60 km, devrait être en mesure de répondre aux besoins de la population. Une utopie ? Regardons de plus près. Tout cela vise surtout à faire bouger les mentalités et à favoriser tout d'abord les circuits courts. Un homme, Jean-Michel Bois, il est l'adjoint au maire, il est en charge du dossier, il nous dit ceci. Je ne veux pas interdire les produits qui viennent de plus loin, bien sûr, mais le bilan carbone, c'est l'affaire de tous. Ça doit être l'affaire de tous. Deuxième objectif, sécuriser les approvisionnements en cas de crise alimentaire. Et Jean-Michel Bois poursuit. À Albi, dit-il, on n'a que 5 jours de stock de nourriture. Et enfin, ce défi, c'est aussi la course aux aliments sains dans les assiettes. Le même homme, Jean-Michel Bois, poursuit. Quand un agriculteur serre la main de ses clients, il se pose plus facilement la question des produits qu'il met dans ses champs. Alors comment tout cela fonctionne-t-il ? Eh bien, en bordure du Tarn, une vaste friche verdoyante, non constructible, de 73 hectares, est située à une quinzaine de minutes de vélo du centre-ville. Nous sommes à Canavières. Et c'est le véritable laboratoire municipal. Ici, la mairie préempte les terrains. Elle est prioritaire pour les racheter. Elle loue ensuite de petites parcelles d'environ 1 hectare à des néo-maraîchers volontaires qui se lancent dans la profession. Pardon. Le loyer est très raisonnable. On parle de 70 euros par hectare et par an, c'est-à-dire à peu près une centaine de dollars. Mais par contre, les règles sont strictes. Du bio, rien que du bio. Mmh. Les techniques utilisées permettent néanmoins des rendements suffisants. Les clients doivent être locaux et en circuit court, c'est-à-dire panier, vente en ligne et les écoles. Jean-Michel Bois nous dit que demain, il espère que leur cuisine centrale, qui prépare les repas des écoliers et des personnes âgées, pourra absorber le surplus. Alors pour l'instant, eh bien, on parle de 8 hectares. 8 hectares qui ont déjà été rachetés et 7 emplois ont déjà été créés. Un homme, André Morla, est l'un des pionniers. C'est un ancien paysagiste, il a 56 ans, et il s'est lancé dans l'aventure récemment. Il cultive une 60aine d'espèces de légumes différents. Il produit de l'huile de noix et du jus de pomme. La demande pour sa production, et soyons clairs, elle est un peu plus chère qu'en supermarché. Eh bien, néanmoins, la demande ne faiblit pas. Il parvient même à en vivre, même s'il ne compte pas ses heures. Alors, d'autres zones de ce genre pourraient voir le jour dans la ville. Et, pardonnez-moi à nouveau, les choux, les blettes, les pois, l'ail, les fèves, les fruits rouges, les pommiers, eh bien, les incroyables comestibles. Le nom est charmant, c'est un groupe qui existe à l'échelle de la planète. Eh bien, les incroyables comestibles partent à la conquête de la ville. Ces jardiniers d'un genre nouveau œuvrent effectivement partout dans le monde pour que les fruits et les légumes réinvestissent l'espace public et puissent être cueillis librement. Alors, les habitants n'osent pas trop cueillir les légumes. Ils ont l'impression que c'est du vol. Avoue un bénévole qui, lui, travaille dans le potager au cœur de l'université. Et il ajoute ceci. Avant, certains étudiants nous disaient ne jamais manger de légumes. Alors pourquoi faire pousser de l'herbe ? Évidemment, le consommateur a un grand rôle à jouer dans la réussite du défi de la ville d'Albi. Et Jean-Michel Bois conclut en nous disant que la grande distribution, on parle de la distribution alimentaire bien sûr, sera alors obligée de jouer le jeu des producteurs locaux. Car on n'arrête pas une idée dont le temps est venu.
C'est à vous.
Eh bien, effectivement, je voulais pas boucler cette chronique sans évoquer ce qui s'est passé hier à Orlando.
Oui.
Et je voudrais l'évoquer d'une façon particulière. Je vous propose de nous rendre en Allemagne. Pourquoi ? Parce que il y a hier, c'était aussi un anniversaire. D'une part, un an, mois pour mois,
ouais,
les États-Unis officialisaient le mariage pour tous.
Okay.
Mais néanmoins, en Allemagne, c'était aussi l'anniversaire de Anne Frank.
Ah oui !
Qui a elle aussi vécu de la barbarie, et elle en est décédée, de la barbarie nazie. À cette époque, les Juifs portaient une étoile jaune. Les homosexuels, peu le savent, une étoile rose, avant d'être emprisonnés, déportés, exterminés. Alors, effectivement, hier, des êtres comme Anne Frank, qui elle n'avait pas non plus choisi de naître dans une famille avec une religion, une histoire, elle était juive. Mais elle a assumé. Eh bien, hier, des êtres qui n'ont pas choisi de naître ce qu'ils étaient, mais qui ont eu le courage de l'assumer, ont payé de leur vie. Et ce matin, j'imagine sur leur poitrine une autre étoile rose. Eh bien, tous ceux qui sont morts hier à Orlando vont continuer, comme Anne Frank, à vivre en nous, grâce à nous.